Alors, les questions du réveil, la question du réveil est quelque chose de très important aussi, je dirais, pour les églises évangéliques. Parce qu'au fond, les églises évangéliques, mais au fond, on pourrait dire, en France en tout cas, les églises protestantes, l'église réformée, l'église luthérienne, etc., de la même manière, je pense qu'en Suisse, ça doit être à peu près pareil, ces églises, au fond, ont une double origine. Il y a la réforme, bien sûr, tout le monde le sait, il y a Luther, il y a Calvin, etc., et puis, il y a les réveils. Et la réalité des églises dépend au moins autant, je dirais, de l'histoire des réveils que de la réforme. Alors, quelquefois, on a un certain nombre de protestants qui ont un peu tendance à penser qu'il y a eu la réforme du XVIe siècle et puis un grand bond jusqu'à aujourd'hui, mais finalement, entre les deux, il s'est passé beaucoup de choses. Alors, certaines églises sont directement issues d'un réveil. Les églises méthodistes, par exemple, viennent directement, je dirais, du grand réveil de Wesley. Les églises libres, la plupart du temps, viennent du réveil du XIXe siècle, etc. Mais au fond, je dirais que les réveils ont façonné les spiritualités, alors protestantes en général, mais évangéliques en particulier. Et j'ai envie de le dire, comme ça, pour le meilleur et pour le pire. Hein? C'est-à-dire, à la fois, tout ce qu'elles ont de fort, de vivant, de dynamique, de riche, etc., spirituellement, vient du réveil. Il n'est pas exclu que les éléments moins positifs viennent aussi quelquefois des retombées du réveil. Hein? Tout mouvement spirituel, vous verrez, a ses mouvements, a son, comme on a vu avec les grandes spiritualités catholiques, son mouvement magnifique, je dirais, d'éclosion, d'épanouissement, et puis quand il retombe, ben voilà, il n'y a pas forcément que le bien qui reste. Et ce qui est intéressant, c'est que les réveils ont très souvent été, on va le voir, un retour à l'intuition initiale de la réforme. C'est un retour aux sources presque à chaque fois. Le pentecôtisme ayant peut-être quelque chose de particulier là, parce qu'il va y avoir aussi, je dirais, des éléments nouveaux qui sont apportés, mais très souvent c'est un retour à quelque chose d'essentiel. Et donc on va voir une série de grands mouvements de réveil classiques. Il y en a eu beaucoup, hein, mais on va limiter. Au fond, je vais vous parler là de deux. Alors, je vais essayer de ne pas faire trop long, parce que justement, les deux risquent de s'étaler un peu. Donc, c'est un réveil, le piétisme, qui est un réveil, donc, germanique en milieu luthérien, et puis, avec Wesley, le grand réveil anglo-saxon initial, à partir duquel il va y avoir alors toute une série de réveils, et je dirais même le réveil de Genève, ou le réveil continental dont on parlera ce soir, lui-même découle de ça, comme le pentecôtisme un peu plus loin. Alors, vous savez que quand on parle des églises évangéliques, on emploie souvent des gros mots. Le piétisme, au fond, pour beaucoup de gens, si vous dites à quelqu'un qu'il est un piétiste, c'est pas d'abord un compliment. Hein? Si vous lui dites en plus qu'il est puritain, ça va pas arranger les choses. Et dans tous ces cas-là, au fond, il s'agit d'abord d'une injure, enfin d'un mot critique qui est tombé sur quelqu'un, comme Linda disait pour les anabaptistes, hein, c'est d'abord une injure, puis ça va devenir un mouvement qu'on accepte. Et ces mouvements vont être des grands mouvements spirituels, même si quand ils retombent, ils vont pouvoir manifester les défauts que peut dans notre esprit représenter le mot piétiste, entre guillemets. Donc, le mot piétiste historiquement caractérise un immense mouvement de réveil en milieu luthérien qui va toucher protestantisme allemand, hein, principalement, qui va toucher ce protestantisme vers la fin du XVIIe siècle. Alors, à son origine, on trouve un pasteur alsacien. Ça, c'est juste le tout petit côté, ça fait très français, ça. Sauf que il faut reconnaître qu'à l'époque, alsacien, voilà, ne voulait pas vraiment dire très français, c'est Philippe Jacob Spener. Il est né à Ribeauvillé en 1635 et il va faire ses études de théologie et de philosophie à Strasbourg. Il est influencé par l'œuvre de Johann Arndt, qui est un auteur d'ouvrages d'édification luthérien, qui va être à la fois marqué, je dirais, par certains courants de la spiritualité médiévale. Vous savez, j'avais déjà esquissé les liens entre la mystique rhénane et Tolère en particulier. Parce qu'à l'époque, Eckhart est peu connu et sent un peu le soufre. Donc, Tolère est quand même celui qui est le plus présent, je dirais, facilement. Et puis donc d'autres courants de spiritualité. Et au fond, c'est une tradition qui va allier l'orthodoxie luthérienne avec Hunt et puis une dimension mystique. Je passe rapidement. En 1666, Spener va devenir le pasteur senior de Francfort sur le Main, c'est-à-dire qu'il est au fond le pasteur responsable du corps pastoral de la ville. Et il va essayer, mais sans grand succès, là, de réformer l'Église en la ramenant à un plus grand sérieux dans la foi. Puis il va changer de méthode et il va au fond regrouper ceux qui voudraient aller plus loin. Un petit groupe de chrétiens sincères et ces petits groupes, donc des collégiats pietatis, des petits collèges de piété, des petites communautés de gens pieux, vont lire des ouvrages de piété, vont travailler la Bible et partager. Et son espoir, c'est de réveiller la grande Église. Il n'est pas question pour lui de quitter l'Église. On verra d'ailleurs que pour Wesley, c'est la même chose. Il n'est pas question de créer une autre Église, mais de réveiller l'Église luthérienne. Et vous savez, avec cette tradition piétiste, c'est là qu'on va parler des ecclésiolés, in ecclésiola. In ecclésia, je veux dire, c'est des petites églises dans la grande Église, les petits groupes dans la grande Église. On pourrait dire que les mouvements charismatiques, par exemple dans l'Église catholique, mais aussi ailleurs, est souvent dans ce cadre-là. C'est des petits groupes réveillés, entre guillemets, à l'intérieur de la grande Église. Et alors, c'est à Francfort qu'il va écrire un livre qui va être le point de départ et l'instrument du réveil. Ce livre, on le connaît sous le titre « Les Pia Desideria », les pieux désirs. Au départ, c'est juste une introduction à un ouvrage de Hunt qui allait être réédité. Donc il a été écrit et traduit en français il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, vous l'avez en français, les Pia Desideria, je les laisse là. Donc, vous voyez, c'est quand même un vrai petit bouquin, une introduction, mais qui est quand même une grosse introduction. Très vite, ce texte va connaître un immense succès. Il va être édité en tant que livre. Il connaîtra de beaucoup d'éditions, etc. Je passe vite sur la fin de la biographie de Spener. Le mouvement va se développer. Comme tous les mouvements de réveil, il va déclencher à la fois un très grand engouement et une très forte animosité, c'est en général ce qui se passe. D'autant que certains groupes vont aller plus loin que lui et vont vouloir sortir de l'Église officielle. Il va être ensuite prédicateur à Dresde, à la cour du prince électeur de Saxe, et il va finir sa vie à Berlin, où il va avoir une influence très grande dans la cour du Brandebourg et à l'université de Halle, qui va être le lieu, on pourrait dire historiquement, le centre à partir duquel le piétisme va se développer dans des tas de dimensions, aussi bien spirituelles, théologiques, culturelles, missionnaires, etc. Le mouvement va se développer avec des disciples de Spener. Franke est sans doute le plus célèbre, et on peut citer parmi les grands personnages aussi le comte Zinzendorf, qui va être à la tête des églises moraves, et vous verrez que les églises moraves vont servir de pont, on pourrait dire, entre le piétisme et le méthodisme, entre ma première partie et ma deuxième partie, parce qu'il va y avoir une influence, je dirais une succession apostolique là, qui va se manifester. Ce piétisme va se répandre dans toute l'Allemagne et va avoir un énorme impact dans des tas de domaines. Alors, je voudrais d'abord partir un peu sur les Pia Desideria, voir quelle est la situation de ce... qu'est-ce qu'il raconte, au fond, ce piétisme, quelle est la situation de ce mouvement. L'ouvrage est divisé en trois parties. La première partie est un constat sur le triste état de l'Église évangélique. Je cite. L'Église évangélique, il faut l'entendre en allemand, c'est l'Église protestante. Vous savez que évangélisch en allemand, ça veut simplement dire protestant. Ça ne veut pas dire évangélique avec les connotations que nous avons, nous, aujourd'hui. Évangélique, c'est protestant en allemand. Et cette analyse, elle est assez longue. Cette description de la situation est assez détaillée. Deuxième partie, elle va brosser l'état meilleur promis par Dieu à son Église. Et puis la troisième partie qui va évidemment nous intéresser, ce sont des propositions en vue de réformer l'Église. Des indications pour faire avancer les choses. Alors le triste état de l'Église, ce qui est décrit, c'est une Église dans laquelle, au fond, la médiocrité est largement développé. Les scandales aussi, il va développer lesquels. Et le pire, c'est sans doute encore l'état du ministère. Je cite, il dit ceci, « Le plus affligeant chez les pasteurs, c'est que leur vie et l'absence des fruits de la foi montrent chez tant de prédicateurs que la foi fait défaut chez eux-mêmes. Et ce qu'ils prennent pour de la foi, et qui est aussi la base de leur enseignement, ce n'est absolument pas la vraie foi suscitée par l'illumination du Saint-Esprit et par le témoignage et le sceau de la parole divine, mais c'est une construction de l'esprit humain. Ils ont bien appréhendé dans l'Écriture la vraie doctrine, ils y adhèrent aussi et savent l'exposer à d'autres, mais ils ont seulement appris la lettre de l'Écriture sans l'action du Saint-Esprit. » Voyez la critique. Et vous voyez aussi l'adversaire qui est visé. Quand on débat aujourd'hui, souvent dans les polémiques qu'on imagine au sein du protestantisme, au fond, implicitement, on imagine une opposition entre un mouvement, je dirais, évangélico-charismatique, voilà, qui pourrait représenter un peu la place du piétisme, et puis un certain libéralisme théologique. Là, il n'est pas question de libéralisme. Il s'agit d'une sorte de décomposition aux yeux de Spener de, je dirais, la doctrine apostolique. Le libéralisme est une décomposition de la doctrine apostolique, on pourrait dire. Mais là, le piétisme réagit à une orthodoxie figée. On n'est pas encore dans le libéralisme, ce sera encore un autre mouvement de réaction aussi à cette orthodoxie. Une orthodoxie qui a les mots de la doctrine, mais qui en a perdu la vigueur, la force spirituelle. Et par deux fois dans ce texte, l'analyse est claire, hein, et elle va se retrouver dans la plupart des réveils. L'idée, c'est vous avez tout, mais il vous manque le Saint-Esprit. Hein? Et le discours que vous avez sur la foi, finalement, il n'est pas fou. Intellectuellement, vous dites des choses justes, vous êtes capable de l'exprimer, mais il s'agit de la lettre d'une doctrine, mais pas de la vie. Il s'agit de la lettre de l'Écriture, mais sans l'action du Saint-Esprit. Et les manifestations de ces carences, au fond, ce sont les discordes, par exemple, qui ne cessent d'exister dans l'Église. L'état du peuple de Dieu, lui aussi, est lamentable, et on est très loin, dit-il, de prendre au sérieux la notion de vocation, qui concerne pourtant tout chrétien pour la tradition luthérienne. Non pas que Spener du tout mette en doute le salut par la foi, au contraire, hein, il va insister fortement là-dessus, mais il dit « Ainsi, nous sommes tenus d'écouter assidûment la parole divine. » Au fond, il faut prendre au sérieux ce que nous affirmons. Et c'est ça, c'est le grand problème du piétisme, et ça va être le problème de tous les réveils. C'est au fond de dire « On veut passer des mots à l'expérience spirituelle de ce qui est dit. » Et alors il va citer notre cher Luther. Et vous voyez que dans je mets les guillemets à notre cher Luther, hein, c'est lui qui... Et dans le discours, évidemment, Luther est la référence derrière laquelle il avance, mais je crois très sincèrement, hein, pour lui c'est revenir à l'esprit au fond de Luther. Et il cite Luther dans sa préface à l'Épître aux Romains. « La foi est une œuvre divine en nous qui nous transforme et nous fait renaître de Dieu et qui tue le vieil Adam. » C'est Luther qui parle, hein, qui est cité par Spener. « Elle fait de nous des hommes totalement différents de cœur, d'âme, d'esprit. Elle change toutes nos facultés et entraîne avec elle le Saint-Esprit. C'est une affaire vivante, entreprenante, active que la foi, et il lui est impossible de ne pas opérer le bien sans arrêt. Elle ne demande même pas s'il y a des bonnes œuvres à accomplir avant qu'on ne lui demande. Elle les a faites. Et elle est toujours en action. » Et au fond, la démarche de Spener, c'est de dire, ben voilà, ça c'est ce que dit le Luther, dont vous, comme moi, auquel nous nous référons, et ben voilà, allons-y, au boulot, mettons ça en pratique. Et il ajoute, même les Juifs sont scandalisés par l'état de l'Église. Et on retrouve chez Spener, au fond, les accents du jeune Luther. Vous savez que Luther avait au fond l'idée, si l'Église se réforme et revient à l'Évangile, la vérité de cette Église et la vérité de cet Évangile vont être tellement évidents que non seulement les Juifs vont se convertir, mais les papistes vont se convertir, etc. Et puis quand il va voir que c'est plus compliqué que ça et que les Juifs ne se convertissent pas nécessairement en lisant la pensée de Luther, alors il aura quelques propos qui seront ensuite un peu plus malheureux sur le sujet. Voilà. Mais je pense que beaucoup des points un peu antisémites, je crois, ou enfin en tout cas difficiles à lire, de Luther, viennent d'une déception profonde, je crois. Il était persuadé que la clarté de l'évangile serait tellement forte que, voilà, si les juifs n'étaient pas convertis, c'était à cause de tous les défauts de l'Église. Mais si on allait corriger ces défauts, ça serait... voilà. Mais la démarche de Spener, c'est regarder au fond le mauvais exemple que les chrétiens donnent. Pas étonnant que les autres ne se convertissent pas. Alors après, il va brosser rapidement, moi je serai très rapide là-dessus, l'état meilleur promis par Dieu. Si l'Église était l'Église, non seulement les Juifs se convertiraient, mais la Rome papiste n'existerait même plus. Tellement ça serait évident. C'est que la perfection chrétienne, elle est au moins dans une certaine mesure une réalité à vivre, à mettre en pratique. Et il écrit ceci, « Certes, nous n'atteindrons jamais dans cette vie un degré de perfection tel qu'on ne pourrait ou devrait plus rien y rajouter. Cependant, il est sûr que nous sommes tenus d'arriver à un certain degré de perfection. » Et vous verrez que là, un Wesley se retrouvera très bien dans ce genre de choses. Et s'il fallait trouver un exemple et une preuve de cela, alors il suffirait d'aller voir du côté de l'Église primitive. Et Spener va citer Tertullien, va citer le cher vieil Ignace, qui n'est pas de Loyola mais d'Antioche, hein, c'est dans les pères de l'Église, Eusèbe, Tatien, Origène et d'autres. Donc cet enracinement dans la patristique, dans les pères de l'Église. Alors, on arrive maintenant aux propositions qui nous intéressent, et vous allez voir à quel point, il y a une modernité, je crois, de ces propositions. Si on les lit, finalement, on a l'impression que, voilà, c'est pas si dépassé que ça. Et puis, vous verrez à quel point, sans que nous en ayons conscience, je dirais, notre culture évangélique, est marquée par ça. Je vous dis tout de suite, j'ai l'impression que le monde évangélique est doublement concerné par Spener. Un, parce qu'il en vient, et au fond des choses qui sont des réflexes naturels chez nous, on s'aperçoit qu'ils sont nés là, et deux, parce que les critiques que Spener fait, au fond, touchent toute Église, je crois, sans exception, à partir du moment où elle commence à s'institutionnaliser. Et au fond, vous savez, le propre des Églises évangéliques, c'est d'être bouillonnante dans le réveil, dans un premier temps. Et voilà, mais il n'y a pas que le premier temps, et après on passe à la suite, et les critiques faites par Spener me paraissent universellement un peu pertinentes. Alors, 6 propositions. Première proposition, répandre la parole de Dieu. Chacun devrait pouvoir connaître et lire assidûment la parole de Dieu, et particulièrement le Nouveau Testament. Et il faut toujours se rappeler ce qu'on a dit hier et ce qui a été rappelé ce matin, c'est que finalement, c'est pas parce que les gens sont devenus luthériens qu'ils sont passés au protestantisme, qu'ils sont brutalement devenus pieux de médiocres catholiques qu'ils étaient. Hein. Ils ont une forte tendance à devenir de médiocres luthériens quand ils ont été de médiocres catholiques. Mais voilà. Donc l'Église n'a pas forcément été bouleversée spirituellement du premier coup. Les livres de l'Écriture doivent être lus en public, mais il faudrait également remettre en honneur des assemblées au cours desquelles chacun pourrait s'exprimer. Au fond, des groupes de partage, d'études bibliques, chacun pourrait prendre la parole en fonction de ses dons et charismes pour mieux comprendre la matière proposée. Alors là, les dons et charismes ne sont pas à prendre là au sens charismatique du terme, entre guillemets, hein, mais au fond, voilà, chacun pourrait apporter les lumières qui sont les siennes sur le texte biblique. Donc c'est la dimension collégiale, collective, fraternelle, de l'étude de la parole. Deuxième point, le sacerdoce spirituel. Comme le rappelait notre docteur Luther, toujours entre guillemets, tous les chrétiens sont prêtres. C'est-à-dire qu'ils sont tous appelés à une fonction spirituelle. Ils doivent étudier la parole et dans la mesure de la grâce qu'ils ont reçue, ils peuvent instruire les autres pour les convertir, pour les édifier. Ils doivent se soucier du salut les uns des autres et prier les uns pour les autres. Or, autant le sacerdoce universel fait partie des convictions fondamentales du luthéranisme, autant très souvent dans les églises, au fond, il y a un pasteur fonctionnaire qui est le seul à faire à peu près tout. Donc il dit, il faut revenir, il faut mettre en œuvre, au fond, ce sacerdoce universel. Ensuite, il faut pratiquer, c'est le troisième point, le vrai christianisme. Et il dit ceci qui est très piétiste, ça aura même des conséquences, enfin on pourrait vous trouver des conséquences dans le libéralisme, dans la philosophie, dans beaucoup de choses, mais voilà, et qui est typiquement évangélique, je crois, c'est la vie chrétienne est avant tout une pratique. C'est pas simplement une doctrine, hein, c'est avant tout une pratique et d'abord celle de l'amour. Non seulement les chrétiens devraient s'aimer entre eux, devraient apprendre à pardonner, mais aussi ils devraient apprendre à faire du bien à leurs ennemis. Et alors ça nous intéresse au premier chef pour l'ensemble de notre formation, pour cet apprentissage de la vie chrétienne, au fond un accompagnement pourrait être utile. Vous voyez qu'on n'a rien inventé. Et je cite, « Dans ce but, il peut être utile comme en général, pour grandir dans la vie chrétienne, que ceux auxquels on demande instamment de marcher dans les voies du Seigneur aient des relations confiantes et amicales avec leur confesseur ou avec un autre chrétien, sage et inspiré, qui lui rendent toujours compte de leur vie, des occasions qu'ils ont eues d'exercer l'amour chrétien, de la manière dont ils les ont saisies ou laissées passer, qu'ils se fassent conseiller et instruire par lui, qu'il s'informe pour savoir où il y a encore des carences et comment y remédier. » Hein, donc on sorte de cette idée finalement du chrétien du dimanche qui va juste écouter le prêche le dimanche matin, mais qu'au fond il y ait ces petites communautés dans lesquelles on est accompagné par quelqu'un, et que le but ce soit la pratique réelle de la vie chrétienne. Quatrième point sur lequel une réforme est nécessaire, ce sont les controverses religieuses. La grande question qui se pose, c'est quelles sont, vous vous rappelez, on est dans une époque là où on est très loin de l'œcuménisme, hein, les gens qui ont une ouverture au dialogue sont quand même pas légion au XVIIe siècle. Quels sont nos devoirs vis-à-vis de ceux qui sont dans l'erreur? Il nous faut prier pour eux, leur donner le bon exemple, et présenter la vérité avec modestie. Éviter en particulier les insultes et les allusions personnelles, car, je cite, « elles démolissent aussitôt tout le bien qu'on a cru construire ». Pertinent, hein ? Il est également capital de pratiquer un amour sincère. Il ne s'agit pas là, pour lui, de céder à l'erreur, hein, de dire, au fond, tout se vaut, mais il s'agit de considérer nos adversaires comme des prochains et des frères, en vertu de la création universelle et en vertu de l'amour divin qui s'étend à tous. Et Spener ajoute, insulter quelque croyant ou un homme qui est dans l'erreur, ou lui infliger du mal à cause de sa religion, c'est là un zèle non seulement charnel, mais un obstacle à leur conversion. Car la haine justifiée pour la fausse religion, ne doit pas supprimer ou affaiblir l'amour dû à la personne. Si nous voulons espérer quelque peu la réunification de la plupart des religions en cours parmi les chrétiens, donc une espérance œcuménique, on pourrait dire, hein, le moyen le plus immédiat et le plus susceptible d'être béni de Dieu pourrait être de ne pas tout miser sur les controverses, car les esprits sont tellement plus remplis de zèle charnel que spirituel que cette situation rend les controverses stérile. Il ne s'agit pas donc de convertir beaucoup de monde au luthéranisme comme un parti qu'il faut soutenir, mais avant tout d'aider notre adversaire à se convertir à Dieu par notre action, afin qu'il mette en œuvre l'obéissance qu'il lui doit. Cinquième point, et là, je dirais ça, voilà, là aussi c'est pas un point qui est tellement antique, la formation des prédicateurs à l'université. Parce que là, on n'est plus dans la première génération de pasteurs à l'époque de Luther, où, vous savez, je disais, finalement, la formation était nulle ou très faible. Là, on est rentré dans une formation très bonne, très académique, très universitaire. Et il rappelle que le but de la formation des pasteurs, ça n'est pas d'avoir avant tout des savants, mais c'est d'avoir des vrais chrétiens. Et il a cette formule, je trouve très belle, il dit « les académies devraient être de véritables viviers du Saint-Esprit. Les professeurs doivent aussi prêcher d'exemple. Et Spener, là encore, va faire appel à des pères de l'Église et à d'autres grands auteurs de la théologie. Grands auteurs. La théologie ne s'apprend qu'à la lumière du Saint-Esprit. Et la formation doit relever de la vie communautaire, et les professeurs doivent être aussi concernés par la vie des étudiants que par leurs études. Il ne s'agit pas simplement d'avoir des têtes bien pleines, mais il s'agit d'avoir des vies bien transformées et bien faites. Un certain nombre d'ouvrages, dit-il, seraient particulièrement utiles. Alors parmi eux, et là on retrouve, vous savez, ses racines dans une spiritualité plus vaste, il y a la théologie germanique, qui est un texte de la mystique médiévale qui a été traduit d'ailleurs par Luther, aussi utilisé par Luther. Il y a les écrits de Tolère, tant aimé par notre cher Luther, c'est dans ce passage-là que j'avais tiré, vous savez, les citations que je vous avais données quand on avait parlé de Tolère. L'imitation de Jésus-Christ, bien sûr, et puis les ouvrages des pères. Et le partage entre professeurs et étudiants est également important autour de ces livres, autour de l'écriture, autour de la piété. Enfin, dernier point, le but de la prédication, sixième point, c'est l'édification de l'homme intérieur. L'important, ça n'est pas le caractère brillant, intelligent de la prédication, mais c'est montrer qu'elle puisse porter du fruit chez les auditeurs. Et alors, il y a des formules assez rigolotes en disant, voilà, c'est pas la peine d'avoir des prédications dans lesquelles vous allez multiplier les mots en grec, en latin, en hébreu, dont vous êtes sûr que personne n'y comprenne rien, mais c'est d'apporter une parole qui va effectivement pouvoir nourrir les gens qui vous écoutent et transformer leur vie. C'est dans ce but que les pasteurs doivent être formés. Tout ce qui ne vient pas du cœur, c'est l'hypocrisie. Alors j'ai envie de dire que ce programme, quand même, il me paraît voilà, assez sympathique pour aujourd'hui aussi. Et on comprend comment le piétisme a pu bouleverser le monde protestant et comment nous sommes, pour une part, ses héritiers. Alors, il a eu énormément de fécondité. Et à partir de l'université de Halle en particulier, il a eu des conséquences, je dirais, au niveau de la pédagogie, au niveau de la théologie, bien sûr. Il va y avoir un immense mouvement missionnaire, un immense mouvement social. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est limité à une spiritualité individuelle, Dieu et moi. C'est ce qu'on entend souvent par piétisme. Au mauvais sens du terme, hein. Mais ça a été un mouvement extrêmement vaste et qui va avoir des conséquences très grandes. Je pense par exemple des théologiens, je vous dis ça au passage, ça intéressera certains, mais comme tout un courant libéral à certains égards, hein, comme Schleiermacher, puis ensuite Kant, etc., ont des racines aussi dans cet immense mouvement du piétisme. Lorsque même, je dirais, un Kierkegaard aussi, fortement. Lorsque le grand mouvement va retomber, lorsque la dynamique piétiste va retomber, alors effectivement, le danger, c'est de revenir à un certain légalisme. Le danger, c'est de revenir à des petites communautés repliées sur leur piété et sur leur spiritualité, qui vont essayer, et ça on va retrouver ça dans tous les réveils, de manière assez pathétique, de revivre ou de réactiver ce qui n'existe plus et ce qui a été vrai il y a 10 ans, il y a 20 ans, à la génération précédente. Et c'est souvent, quand on emploie le mot piétiste, on pense souvent à ces tout petits groupes, mais le vrai mouvement piétiste a d'abord été un immense mouvement de réveil, de spiritualité du protestantisme. Et cette retombée négative, ce piétisme au mauvais sens du terme, au fond, on va le retrouver dans tous les courants. Alors, on pourrait dire beaucoup plus sur le piétisme, mais je m'arrête pour passer à Wesley et aux méthodistes. Là, on change de monde, on quitte le monde germanique pour rentrer dans le monde anglo-saxon. Vous savez qu'on a pu parler de Wesley comme du troisième grand réformateur. Et je trouve que c'est une formule tout à fait pertinente, hein, en pensant trois réformateurs, Luther, Calvin, Wesley. Bien sûr, historiquement c'est faux, je veux dire, il n'est pas ni de la même ampleur d'une certaine manière théologique, voilà, il n'a pas le même caractère fondateur. Mais en même temps, je crois que la vérité de cette expression tient au fait que je crois que personne n'a eu sur les églises protestantes une importance plus grande que Luther, Calvin et Wesley. Bien au-delà du méthodisme, bien au-delà des fruits immédiats, je dirais, de son travail. Il faut se rappeler d'ailleurs que le méthodisme, et ce qu'on entend aujourd'hui par méthodisme, les églises méthodistes, a été le produit de l'œuvre de Wesley à son corps défendant. Parce que Wesley a toujours été un prêtre anglican, un pasteur anglican, on emploie les deux termes, hein, et il n'est jamais sorti de l'église anglicane. Son but, c'était de réveiller, d'apporter un réveil, mais ce n'était pas du tout de créer une église particulière. Et on pourrait dire en même temps que, à travers ce réveil, il a renouvelé infiniment plus que les églises qui sont devenues méthodistes. Mais tout le monde anglo-saxon de l'époque a été marqué. Les églises baptistes du XVIIIe siècle, qui étaient dans une paisible somnolence, je dirais, ont été réveillées par le mouvement wesleyen. Ça a touché beaucoup plus largement, au fond, ce mouvement. Sa vie va couvrir tout le XVIIIe siècle. Hein. Il naît en 1703, il meurt en 1791. Il naît dans une famille de pasteurs anglicans. Et, alors ça c'est une image, vous savez, qui est assez typique des vies de saints. Quand vous avez les vies de saints, vous avez très souvent la mère qui est une sainte femme. Ben, c'est vrai pour Wesley. Donc, je vous encourage, mesdames, à être de sainte femme. Ça porte souvent des fruits. Donc, sa mère est effectivement une femme tout à fait remarquable qui va l'élever, je dirais, dans toute une culture de piété. Je dis culture, là, parce que... il va lire l'Imitation de Jésus-Christ, il va lire des auteurs spirituels très jeunes, il va faire des études de théologie, il va devenir pasteur ou prêtre anglican, et il va, voilà, il est à ce moment-là, je dirais, comment dire, un pasteur comme on en rêve, déjà, c'est-à-dire quelqu'un qui brûle d'avoir une vie spirituelle profonde, qui cultive sa piété, qui lit des ouvrages de spiritualité, qui a le souci d'une discipline spirituelle, qui va unir à la fois, je dirais, une dimension de prière et de méditation et une dimension de travail social, d'aide aux pauvres, etc. Donc déjà, je dirais là, au fond, si tout le monde était comme lui, j'ai envie de dire que si tous les pasteurs étaient comme Wesley avant sa conversion, entre guillemets, ce serait pas mal, je trouve que l'état de l'Église serait déjà pas si mauvais que ça. Et en même temps, il est, et c'est là où il m'est infiniment sympathique, et on peut se sentir assez proche, hein, il est en même temps insatisfait. Au fond, c'est un chrétien pieux, brûlant de connaître une communion avec Dieu, et en même temps, insatisfait de quelque chose. Alors il va aller en Amérique, on se dit souvent, on va aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte et si le Seigneur n'est pas plus proche au loin. Ça marche rarement, ça n'a pas marché. Il va s'apercevoir que là-bas, ce n'est pas mieux qu'en Angleterre, et il va revenir. Sauf que, quand vous allez en Amérique, à l'époque, c'était différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous prenez l'avion, et sauf coup de chance, vous n'allez pas avoir des rencontres bouleversantes pendant les quelques heures d'avion. Là, vous étiez sur le bateau. Et voilà, ça vous permettait quand même des rencontres. Et il va rencontrer, à l'aller et au retour, des Moraves. Les Moraves, donc, c'est... ces piétistes, disciples de Zinzendorf. Donc voilà, un mouvement piétiste qui va être un mouvement très missionnaire, qui va aller un peu partout, et là il va rencontrer des Moraves. Et sur ce bateau, il va trouver que ces gens-là sont quand même assez étonnants. Ils ont un peu ce qui lui manque. Ils ont l'air de vivre quelque chose. Non seulement de souhaiter vivre quelque chose, mais de vivre quelque chose. Surtout que les Moraves, vous savez, c'est un peu à certains égards des évangéliques, j'ai envie de dire gros grains, mais vous savez, avec ce côté, est-ce que tu es converti, vous savez, bon, qui fait toujours quand on est un personnage cultivé, un peu high church, etc. On dit, qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Mais en même temps, bon, ils sont assez impressionnants. Et quand il va revenir en Angleterre, il va garder le contact avec les Moraves. Et ils ont à Londres, comme ça, une chapelle, et puis il va continuer à y aller. Et c'est dans ce contexte qu'il va vivre une expérience spirituelle fondamentale. On reviendra sur la formule, mais qui va souvent être qualifiée de conversion de Wesley. Voilà, il faudra revenir sur ce mot. Alors, je vous l'ai dit, ça paraît presque trop beau pour être vrai, tellement historiquement, ça fait une continuité comme ça, apostolique, protestante, mais vous allez voir. Le mercredi 24 mai 1738, vers 5 heures du matin, et il est quand même précis cet homme. J'ouvris mon Nouveau Testament à ces paroles. Nous avons reçu les grandes et précieuses promesses afin que par leurs moyens nous devenions participants de la nature divine. Intéressant parce que vous savez, c'est ce texte de 2 Pierre sur lequel les protestants passent en général comme chat sur braise, parce qu'être participant à la nature divine leur pose en général un certain nombre de problèmes théologiques, et c'est là-dessus que toute la tradition orientale et occidentale va fonder la dimension de divinisation, déification, etc. Au moment de sortir, je tombais sur ces mots. Ô Éternel, je t'invoque du fond de l'abîme. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Ô Éternel, si tu considères les iniquités, Seigneur, qui subsistera? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Israël, attends-toi à l'Éternel, car la miséricorde est avec l'Éternel et la rédemption se trouve auprès de lui. Il lui-même rachètera Israël de toutes ses iniquités. Donc voilà, ça c'est le matin. Un peu comme s'il voulait dire, au fond, dès le matin, il y a une sorte de préparation spirituelle qui s'est faite sans que j'en ai vraiment conscience. Je lis un texte sur la participation à la nature divine, et puis finalement, j'implore la miséricorde de Dieu à travers ce psaume. Dans la soirée, je me rendis à contre-cœur à une société dans Aldersgate Street, donc c'est cette société morave, où j'entendis lire, et c'est là que ça paraît presque trop beau pour être vrai, la préface de Luther à l'Épître aux Romains. Préface que Spener citait, c'est vraiment le texte protestant, je dirais, l'archétype du texte fondateur. Vers 9h moins le quart, en entendant la description qu'il fait du changement que Dieu opère dans le cœur par la foi en Christ, je sentis que mon cœur se réchauffait étrangement. Je sentis que je me confiais en Christ seul, pour mon salut. Et je reçus l'assurance qu'il avait ôté mes péchés, qu'il me sauvait de la loi du péché et de la mort. Je me mis alors à prier de toutes mes forces pour ceux qui m'avaient le plus outragé et persécuté, puis je rendis témoignage ouvertement devant les personnes présentes de ce que j'éprouvais en mon cœur pour la première fois. L'ennemi me suggéra bientôt « Ceci ne peut être la foi, car où est ta joie ?» Mais j'appris bientôt que si la paix et la victoire sont étroitement liées à la foi au chef de notre salut, au Christ, il n'en est pas ainsi des transports de joie qui l'accompagnent ordinairement, surtout chez ceux qui ont passé par une angoisse profonde, mais que Dieu se réserve de dispenser ou de refuser selon son bon plaisir. Donc voyez une expérience fondatrice, alors dans la droite ligne de tout ce qu'on a dit avant, droite ligne de Luther, c'est en lisant, en écoutant la lecture de l'introduction par Luther, son commentaire à l'Épître aux Romains. Donc c'est presque devenu une expérience mythique, fondatrice pour le méthodisme et pour le monde évangélique. Ça. Et au fond dans la droite ligne de l'enseignement de Paul. Alors faut-il parler de conversion? Faut-il parler de plénitude? Faut-il parler d'expérience de l'esprit? Au fond, on peut toujours hésiter. Vous savez, c'est comme l'expérience de Pascal. Vous savez, joie, joie, pleurs de joie, etc. Est-ce que c'est la conversion de Pascal? Et quand on lit la biographie de Pascal, au fond, avant, c'était déjà pas si mal que ça. Donc, je veux dire, est-ce que c'est une conversion? Est-ce que c'est une étape à l'intérieur d'une évolution? Là, il y a des débats. On a beaucoup parlé à une époque de la conversion de Wesley, là. Et le méthodisme va souvent faire ça, de ça un peu l'archétype de l'expérience par laquelle il est nécessaire de passer. On va aussi pouvoir parler de baptême dans l'esprit ou d'expérience de l'esprit. On comprendrait ça aussi assez bien. En tout cas, il s'agit là du grand commencement qui ouvre à la spiritualité de Wesley des portes nouvelles qu'il cherchait avant, mais sans pour autant, il me semble, signifier une rupture radicale avec son cheminement préalable. Et alors, comme ça arrive souvent dans les réveils, son frère Charles Wesley, très célèbre pour les cantiques qu'il va écrire et qui va être un peu celui qui va être à l'origine des grands cantiques du réveil, toute l'hymnologie du réveil, son frère Charles, 3 jours avant, avait eu une expérience spirituelle où il avait trouvé la paix. Et lors du séjour de Wesley en Amérique, d'autres amis, donc Whitfield, qui faisait partie du même groupe que lui à la faculté, là, même groupe de gens pieux, avait eu aussi une expérience spirituelle. Alors, il faut juste, je souligne juste un point, c'est que quand on va développer dans la tradition évangélique cette dimension, j'ai l'impression que quelquefois on va mettre l'accent très fort sur la dimension de conversion, sur la dimension de la décision. Et c'est vrai qu'il y a une dimension de décision personnelle de conversion qui va être très forte dans cette tradition. Mais je crois qu'il faut toujours se rappeler du danger qu'il peut y avoir à mettre trop l'accent, quelquefois, sur la notion de conversion. Ça, il y a une phrase de Pascal, je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de déjà la dire, mais en tout cas, je la redis avec plaisir parce qu'elle me paraît, elle m'a toujours frappé beaucoup. C'est dans les Pensées de Pascal, il dit ceci: les hommes prennent souvent leur imagination pour leur cœur et ils croient être convertis dès qu'ils pensent à se convertir. Je trouve que c'est une remarque très profonde. Si ça vous intéresse, c'est la pensée 974 si vous avez l'édition La Fuma et 275 si vous avez l'édition Brunswick. Après, avec les tables, vous retrouverez toujours. Donc le risque, hein, c'est de se centrer entièrement sur la conversion et d'oublier que la conversion n'est qu'un point de départ. On a l'impression que dans certains milieux évangéliques, ça a pu arriver, et ça a été une mauvaise conséquence, je dirais, de Wesley, tout à fait involontaire pour lui. Et finalement, vous savez, vous avez quelquefois dans certains milieux, vous avez l'impression que la seule chose qui compte, c'est amener les gens à la conversion, et une fois qu'ils sont convertis, c'est d'en faire des évangélisateurs pour qu'ils amènent des gens à la conversion. Et finalement, on a comme ça des communautés entières d'enfants, d'infantilisme spirituel un peu, parce qu'on reste toujours à tourner autour du point de départ. C'est pas du tout le cas de Wesley, parce que il va mettre l'accent sans doute plus fort qu'aucun autre protestant avant lui sur la dimension de la sanctification. S'il fallait trouver une spécificité de la prédication de Wesley, c'est sans doute celle-là. Il n'est pas, contrairement à Luther ou à Calvin, un grand théologien qui apporte du nouveau. Sa théologie, c'est la théologie de l'Église anglicane, et il se garde bien de vouloir apporter du nouveau. Simplement, il met l'accent de manière très forte sur la sanctification. Vous verrez que Calvin parle de la sanctification, met l'accent dessus, mais au fond, en insistant moins. Pour Wesley, elle est le but immédiat, exigeant, de la vie chrétienne. Il écrit ceci: « Lorsque nous sommes justifiés, et à vrai dire, dès le moment où nous le sommes, notre sanctification commence. Car alors, nous naissons de nouveau d'en haut de l'esprit. Il s'opère donc un changement réel, aussi bien qu'un changement relatif. La puissance de Dieu nous régénère intérieurement. Nous sentons que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, et qui y fait naître de l'affection pour tous les hommes, surtout pour les enfants du Seigneur. Cet amour exclut de notre âme l'amour du monde, l'amour des plaisirs, de la mollesse, des honneurs, de l'argent. Il en bannit également l'orgueil, la colère, la volonté charnelle et autres vices. En un mot, il convertit notre caractère terrestre, sensuel et diabolique en ces sentiments que le Christ Jésus a eu, ou que Jésus-Christ a eu. Donc vous voyez, la conversion, l'expérience de l'esprit, entraîne un bouleversement radical et un changement fondamental. On est très loin, je dirais, de la justification purement juridique. Hein, on rentre dans, d'une manière très classique dans l'histoire de la spiritualité chrétienne, hein, dans une transformation en profondeur de l'être par le Saint-Esprit. Et cette sanctification, elle ne relève donc pas d'abord de l'effort humain, elle est le fruit de la présence de l'Esprit de Dieu dans le croyant. Elle est un don de Dieu, et c'est la foi qui l'opère, parce que la foi est ouverture à l'Esprit, ouverture à ce don de Dieu. Alors, toute une immense majorité de la tradition chrétienne, et c'est le cas de Calvin en particulier, voit dans la sanctification le fruit du long cheminement d'un effort spirituel. C'est le travail du Saint-Esprit et c'est le travail de l'homme. Vous savez, c'est toujours cette double réalité. Travaillez à votre salut, ou mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Donc, mettez-y tous vos efforts comme si tout dépendait de vous. Et Paul continue, car c'est Dieu qui crée en vous et le vouloir et le faire. Donc, faites comme si tout dépendait de vous, en sachant qu'en fait, tout dépend de Dieu. Mais il y a cette dimension de durée, d'effort, etc. Wesley partage cette conviction. Il va même reprendre des pères de l'Église, il va reprendre Macaire en particulier. Mais il ajoute, c'est dans ses dispositions que nous attendons une entière sanctification, une délivrance complète de tous nos péchés, de l'orgueil, de la volonté charnelle, de la colère et de l'incrédulité. Donc, il va mettre l'accent beaucoup plus que chez les autres sur la possibilité de la perfection sur cette terre. On revient là, je dirais, à une certaine dimension assez catholique, hein, enfin, plus proche du catholicisme. Luther ainsi sur « Simul justus et peccator hein, », toujours sur cette terre, nous serons des pécheurs qui ont besoin de la grâce. Wesley dira « Oui, bien sûr, mais s'il nous est dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait », c'est au fond que, au moins dans un certain degré, cette perfection, elle est possible. Et la définition de cette perfection, elle est claire pour Wesley, elle est classique, très, très catholique au sens classique, hein, je dirais, de la perfection, c'est l'amour parfait. La perfection, c'est un amour qui bannit le péché, qui remplit le cœur et qui absorbe toute l'âme. Donc, ce qu'il y a de spécifique dans la pensée de Wesley sur la sanctification, c'est cette perspective, d'abord c'est l'accent qu'il y met, mais c'est cette perspective de l'entière sanctification que les réformateurs ne pouvaient pas accepter. Et elle est d'ailleurs perçue le plus souvent chez lui comme une expérience particulière et instantanée. Pas simplement le fruit d'une longue ascèse, hein, d'un long mûrissement, mais une expérience de l'esprit. Il dit ceci, « Est-ce graduellement ou instantanément que Dieu accomplit dans l'âme cette grande œuvre ? Peut-être est-il des personnes en qui elle s'accomplit graduellement, en ce sens du moins qu'elles ne savent pas le moment précis où le péché cesse d'exister en elles. Mais il est infiniment préférable, si Dieu le veut ainsi, que ce soit fait en un instant. Que le Seigneur détruise le mal par le souffle de sa bouche en un moment, en un clin d'œil. Et c'est là ce qu'il fait en général. La chose est assez évidente pour que tout homme qui n'est pas prévenu puisse s'en convaincre. » Ça fait en tout cas allusion à un type d'expérience qui, dans ce mouvement spirituel, était assez développée. Et il est utile quand même de préciser que Wesley reconnaît que cette entière sanctification, cette perfection chrétienne, n'exclut pas la possibilité de l'erreur, voire de la faute, ou de la transgression involontaire qui peuvent en découler. Donc je crois qu'il ne faut pas, dans ce genre de débat qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive, hein, mais il ne faut pas durcir l'opposition. Hein. Au fond, il a la conviction que si Dieu appelle à cette perfection, c'est qu'elle est déjà vivable, expérimentable sur la terre, dans une certaine mesure. Mais le seul fait d'ajouter « on peut encore progresser même quand on a atteint cette perfection », prouve bien que c'est un certain degré de perfection, et Spener, vous rappelez, c'est au fond ce qu'il disait. Alors, on imagine assez facilement que les charismatiques d'aujourd'hui, ou les pentecôtistes d'aujourd'hui, mais je ne veux pas déjà empiéter sur l'exposé d'après, voient dans cette expérience l'équivalent possible du baptême de l'esprit. Et ce qui est intéressant, c'est que la prédication de Wesley va susciter d'assez nombreuses manifestations extraordinaires, y compris physiques, chez certains auditeurs. Des cris, des tremblements, des chutes. Et ce qui est amusant, c'est que Wesley il est très embêté par ça. Parce que Wesley est d'abord un pasteur anglican, haute église. Hein. Il a déjà eu un mal fou à accepter l'idée de devenir un immense évangéliste qui va sur le terrain. Fondamentalement pour lui, la prédication, c'est la prédication de l'évangile en chair, en robe, en liturgie, dans une église néo-gothique, on pourrait dire. Hein. Et le fait d'aller prêcher dehors, sur un terri, je ne sais pas où, au peuple comme ça, l'évangile, il a fallu qu'on le traîne un peu, Whitfield l'a un peu amené. Mais alors si en plus les gens non seulement se convertissent, ça c'est quand même une belle chose, mais en plus se mettent à tomber par terre et tout, déjà que les autres anglicans voient le mouvement d'un très mauvais œil, hein, comme un truc un peu bizarre, et puis tous ces gens qui sont des gens un peu sales, pas des gens bien, quoi, qui se convertissent et dont on ne veut pas dans nos églises, hein, bon, si en plus ils se mettent à avoir des crises d'hystérie, c'est terrible. Donc Wesley, il n'est pas très chaud, hein, pour ce genre de choses. Et en même temps, j'ai l'impression qu'on trouve là l'écho, probablement, de ce que, en Angleterre, au siècle précédent, peut-être, les premiers Quakers ont connu. Vous savez, quand on n'a pas parlé des Quakers, mais on aurait pu. Les Quakers sont aussi un mouvement, je dirais, très intéressant pour deux raisons. D'une part, pour 36 raisons. Sur le plan éthique, c'est un mouvement très proche des anabaptistes dans une dimension non-violente radicale. Sur le plan spirituel, il est à la fois un mouvement qui met beaucoup l'accent sur l'écoute de Dieu, le silence, et au fond, tout un courant qu'on pourrait mettre dans une perspective de la mystique rhénane, hein, Eckhart, Toller et d'autres. Et en même temps, je dirais, cette expérience de Dieu, elle préfigure, je crois, le mouvement charismatique, parce que vous savez que le mot Quaker veut dire trembleur. Et, alors, il y a plusieurs interprétations. Certains disent que, il faisait trembler les gens par la parole qu'il donnait, etc. Moi, j'ai l'impression que trembleur voulait dire quand même que cette expérience de Dieu de la toute première génération, elle se faisait avec aussi un certain nombre de manifestations qui se sont calmées chez les Quakers, qui sont en général les gens. Le culte Quaker, vous savez, aujourd'hui, c'est une heure de silence complet. Donc, on est loin de l'exubérance. Mais je me dis, c'est un peu la même chose, d'autant plus que Wesley, quelques mois après sa conversion, après son expérience, a connu avec tout un groupe d'amis, une soixantaine de personnes, une expérience aussi extraordinaire. Il dit ceci, « À environ 3 heures du matin, alors que nous persévérions instamment dans la prière, la puissance de Dieu descendit sur nous avec une telle force que nombreux étaient ceux qui, dans leur joie délirante, poussaient de grands cris, nombreux aussi étaient ceux qui tombaient à terre. À peine revenus de cette frayeur et de cet effarement devant la majesté divine, nous nous écriâmes d'une seule voix, « Dieu, nous te louons, nous te reconnaissons comme Seigneur. » Ce n'est pas à Toronto que ça se passe, hein, c'est, c'est à l'époque. Et alors, Wesley écrit lui-même en 1772 que ces phénomènes sont courants au début de l'œuvre évangélique, mais très rares par la suite. Pourtant, ils ne cesseront jamais complètement d'accompagner son ministère. Et alors, je crois qu'il peut être intéressant, en vue de l'accompagnement, d'écouter les réflexions qu'il fit sur ce sujet. Parce que je trouve qu'il y a une sagesse derrière assez remarquable. Il dit ceci. Le danger était de donner trop d'importance aux phénomènes extraordinaires tels que les cris, les convulsions, les visions et les extases, comme s'ils étaient essentiels au travail extérieur. Intérieur, pardon. Merci. Peut-être le danger est-il maintenant de ne pas leur en accorder assez, de les condamner de façon absolue, d'imaginer que Dieu n'y était pour rien et qu'ils entravaient son œuvre. Alors que la vérité, donc l'analyse que fait Wesley, est la suivante. Premièrement, Dieu a soudain et avec force convaincu un grand nombre qu'ils étaient des pécheurs voués à la damnation, d'où les cris soudains et les violentes convulsions du corps. Vous vous rappelez, juste au passage, ça peut nous rappeler certaines choses d'Ignace de Loyola, vous savez, lorsque le bon esprit vient sur quelqu'un qui va dans le sens inverse, c'est un peu comme l'acide qui tombe sur la craie, hein, ça peut faire des ébullitions. Premièrement, le Saint-Esprit y est pour quelque chose. Deuxièmement, pour conforter et encourager ceux qui croyaient et mieux faire apparaître son action, il a accordé à plusieurs des rêves divins, à d'autres des extases et des visions. Donc, ça peut être l'action de l'esprit, soit à cause, je dirais, du choc que représente le surgissement de l'esprit dans la personne, soit pour l'édification du croyant. Troisièmement, dans certains cas, la nature est mêlée à la grâce. Nous dirions aujourd'hui, dans certains cas, la psychologie de l'homme rajoute une bonne couche à ses expériences et il n'y a pas que l'œuvre de l'esprit, il y a d'autres éléments qui se mêlent à ça. Quatrièmement, Satan a également simulé cette action de Dieu afin de discréditer toute son œuvre. Et pourtant, il n'est pas plus sage de condamner cette partie que de condamner l'ensemble. Au début, c'est sûrement l'œuvre unique de Dieu, ce n'est qu'en partie le cas à ce jour, mais Dieu nous rendra capable de discerner dans chaque cas la pureté de l'œuvre et là où elle est mêlée, où elle dégénère. Je trouve que cette analyse de la dimension charismatique dans le réveil de Wesley me paraît d'une pertinence, tout à fait aujourd'hui. Donc pour Wesley, ces manifestations peuvent venir de Dieu. La psychologie humaine n'y est pas pour rien, il peut en rajouter beaucoup de choses. Et comme le diable est intelligent, eh ben, il n'est pas exclu qu'il s'en mêle de temps en temps. Et vous avez remarqué que c'est à cette dernière catégorie qu'il a tendance à attribuer certaines manifestations de rire contagieux et incontrôlable. J'arrive doucement vers la fin. Un point que je voudrais souligner chez Wesley, c'est la dimension pédagogique. La grande chance avec Wesley, c'est que le spirituel a rencontré dans la même personne un grand prédicateur et un grand organisateur. Vous vous rappelez, ce n'est pas toujours le cas. Vous vous rappelez que François d'Assise en avait un grand spirituel, voilà, un organisateur douteux. Je compatis d'ailleurs, je comprends très bien. Le succès du réveil, je pense, dépend aussi, en partie au moins, de cela. Et Wesley s'est inspiré largement du piétisme qu'il connaissait bien, celui des frères Moraves. Non seulement, vous savez, il lui doit une expérience spirituelle fondamentale, mais il est allé, il a fait un pèlerinage chez Zinzendorf à Erneut, donc en Allemagne, pour aller rencontrer Zinzendorf, pour aller voir ses communautés. Et, alors c'est assez amusant, d'ailleurs je dis ça au passage, il y a ce dialogue, il y a un dialogue entre Zinzendorf et Wesley, savoureux. Parce qu'il n'y avait pas de magnétophone à l'époque, comme maintenant, mais vous aviez des gens qui notaient, vous savez, en sténo. Et vous avez un texte complet du dialogue entre Wesley et Zinzendorf, avec Wesley a dit que, Zinzendorf répond que, Wesley a dit que, etc. Et alors ça, c'est très impressionnant, parce que vous avez une opposition radicale entre deux grands personnages, un dialogue de sourds qui n'arrive pas à se comprendre, sur la question de la sanctification. D'un côté, vous avez un Wesley, honnêtement, irénique, comme c'est pas possible, ce qui est assez son tempérament, qui essaie simplement de faire comprendre que la sanctification est possible et que la grâce est transformante. Et puis vous avez un Zinzendorf, luthérien, comme c'est pas possible, et un peu têtu comme une bourrique, je crois, à certains égards, dans ce dialogue, hein, qui dit « mais l'homme reste pécheur, complètement pécheur, et c'est la grâce ». C'est d'autant plus étonnant qu'on a affaire à deux monstres de la spiritualité, quand même. L'un et l'autre sont des gens qui ont eu une fécondité, je dirais, spirituelle dans leur œuvre impressionnante. Alors, si vous voulez lire ça, je vous recommande. Alors, dans le petit livre que j'ai écrit sur les chemins de la vie spirituelle, j'ai repris ce dialogue. Et si vous le voulez en entier, il est assez long, vous l'avez, certains d'entre vous ont peut-être ce livre de Jürgen Moltmann, L'Esprit qui donne la vie, c'est donc le livre de Moltmann, le dernier, je crois d'ailleurs, qui a été traduit en français, hein, sur la pneumatologie, donc le Saint-Esprit. Et vous avez en entier ce dialogue passionnant entre Wesley et Zinzendorf. Dis-le, pour revenir donc à cette dimension d'organisation, hein, donc l'annonce de l'évangile se fait par la prédication en public, et probablement Wesley a été un des pionniers de cette méthode, hein, avec Whitfield, etc. C'est-à-dire qu'ils ont quitté les églises, sont sortis des églises pour aller annoncer l'évangile partout. Et j'en ai pas parlé parce qu'on a guère le temps, mais là aussi, le contexte historique est très important. On est dans une période de bouleversement culturel, d'urbanisation, d'industrialisation, de prolétarisation. Et se développe tout un prolétariat, devant toute une classe populaire très, très pauvre et très populaire, qui est complètement coupée de l'Église. Et l'Église s'en fiche, au fond, elle s'intéresse à des milieux bourgeois, etc., et ne touche plus ces milieux-là. Et la prédication de Wesley et de tout le mouvement va aller annoncer l'évangile aux gens là où ils sont, dans leur contexte, etc. Et il est sans doute une des personnes qui ont le plus parcouru de kilomètres à cheval partout pour annoncer l'évangile. Et là, il était accueilli, je dirais, par les louanges et les remerciements des uns, par les cailloux des autres, enfin voilà, les injures, ça ne va pas être de tout repos. Donc, évangélisation, puis les gens se convertissent. Les gens se convertissent, ça pose problème, parce que les églises ne sont pas du tout disponibles pour accueillir les gens qui vont se convertir. Alors les églises baptistes, etc., oui, les petites églises qui existaient déjà, mais l'église anglicane, pas du tout favorable. Or, lui, il est anglican. Alors, il va faire comme les piétistes, il va organiser des classes. Des petites classes où on va, en nombre relativement restreint, former les gens, partager sur la foi, former les gens dans une sorte de catéchèse biblique, etc. Et n'importe qui peut appartenir à cette classe pourvu qu'il manifeste le désir d'échapper, entre guillemets, le désir d'échapper à la colère divine. Hein. Donc, dès qu'il y a une démarche spirituelle, quand on manifeste un désir de conversion, d'aller plus loin, alors on peut rentrer dans cette classe. Et puis, dans cette classe, vous avez une sous-classe qu'on appelle la bande, qui est plus petite et qui est composée de ceux qui ont déjà la formation de base et qui veulent avancer vers la perfection. Et ce petit groupe va être une pépinière de prédicateurs. Hein. C'est le lieu où on va former les gens pour en encadrer d'autres et pour annoncer l'évangile aussi. Dans chaque lieu, vous avez donc une petite société méthodiste. Méthodiste, là aussi, c'est un mot, un sobriquet amusé qu'on leur colle, hein, parce qu'ils ont des méthodes de piété, de spiritualité, puis ça devient le terme. Et ces sociétés méthodistes, plusieurs sociétés méthodistes d'une même région, vont former un circuit. Circuit parce que vous avez des responsables qui vont aller de l'une à l'autre pour organiser, pour former, etc. Donc, à chaque niveau de l'organigramme, on a des personnes qui sont formées, capables de former les autres pour faciliter, au fond, leur croissance spirituelle. Alors, cette structure, elle est admirable sur le plan pédagogique. C'est vrai qu'elle n'est pas sans danger. Et on le voit toujours chez nous, je dirais, dans toutes nos églises. Soit il y a un joyeux bazar sympathique, qui a beaucoup de qualités quand même, mais le Saint-Esprit se débrouille quelquefois malgré ça, mais aussi ça peut aboutir à une certaine médiocrité. Soit il y a une organisation pédagogique très forte, une relation avec les disciples là, etc., qui peut arriver quelquefois, aboutir quelquefois à un climat de surveillance mutuelle. Un peu de, je dirais pas de délation, mais enfin voilà, il y a un peu ça. Et c'est vrai que c'est très loin des souhaits de Wesley, mais c'est vrai que ça peut arriver aussi. Il me semble qu'il y a toujours cette tension qu'on va toujours trouver dans le christianisme, je crois, entre, et qu'on trouve entre Luther et les anabaptistes, par exemple, mais comme deux pôles, hein, cette tension entre la liberté chrétienne, fondamentale, mais qui ne propose pas une aide vraiment très solide, et puis le sérieux, et le souci d'avoir une aide efficace, mais qui, parce qu'il y a l'imperfection humaine, hein, peut glisser vers un certain pharisaïsme, ce que Linda disait tout à l'heure. Dernier point, et je conclue avec ça, c'est un esprit d'ouverture de Wesley que je trouve tout à fait extraordinaire. Au fond, il y a chez Wesley, et vous avez entendu, on le trouve chez Spener aussi, ce qu'on pourrait appeler une dimension d'œcuménisme spirituel. Vous vous rappelez, chez Spener, j'ai dit, il y a les références au Père de l'Église, à l'imitation de Jésus-Christ, etc. Wesley, c'est un homme de forte conviction, hein, y compris théologique. On sait par exemple que, vous savez, il est dans, alors voilà, pardon, on n'a pas parlé de Calvin avant, voilà, vous aurez a posteriori les compléments, mais vous savez que dans la tradition calviniste, il va y avoir deux courants calviniennes, je veux dire, tout ce courant réformé, mais quand je dis calvinien, c'est que le calvinisme est à l'origine spirituelle et théologique, au fond, d'à peu près tout ce qui n'est pas luthérien ou anabaptiste. Il y a que non seulement il y a les églises réformées qui en sont les, ou presbytériennes qui en sont les descendants immédiats, mais tout ce qui est baptiste, tout ce qui est église du réveil, église libre, etc., tout ça, c'est quand même une tradition qui est liée à la dimension calvinienne. Et au XVIIe siècle, il va y avoir une opposition très forte entre deux courants au sein de cette tradition calvinienne, un courant qu'on va dire fortement calviniste, avec l'accent sur la prédestination au sens très fort et très strict du terme, hein, le sommet étant les canons de Dordrecht, hein, le synode d'Ordrecht, et puis ce qu'on va appeler une conception arminienne qui dit au fond, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, Jésus meurt pour tous les hommes, mais ne seront sauvés que ceux qui accueillent ce salut par la foi. Alors que chez Calvin, Dieu veut le salut des élus et fait tout de début à la fin pour ce salut, mais seulement pour eux. Wesley, dans ce débat, il est tout à fait orienté. Il est arminien, il a des convictions solides, et il va même rédiger une revue, être le patron d'une revue, qui s'appelle The Arminian, l'Arminien. Donc il a des convictions théologiques fortes. Mais en même temps, il a une capacité, je trouve, tout à fait réjouissante, ça c'est subjectif comme jugement, mais de faire la distinction entre ses convictions fortes et puis la capacité à relativiser un certain nombre de ses convictions pour entrer en relation avec d'autres. Et on voit par exemple un élément très amusant, c'est que je vous ai parlé à une ou deux reprises de Whitfield, qui est un compagnon proche. Et Whitfield, il est très proche de Wesley, sauf sur un point. Autant Wesley est arminien, autant Whitfield est calviniste. Et les deux, finalement, arrivent à collaborer sans difficulté. Et les bagarres naissent, comme souvent, non pas de eux deux, mais de leurs disciples. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, disait quelqu'un de bien. C'est assez pertinent, ça. Et c'est assez fréquent. Il est même en général plus bête que le maître, parce que très souvent, le disciple répète un peu bêtement ce qui était quelque chose de vivant et de jaillissant, une pensée originale et vivante chez le maître, le disciple va reproduire. Et on va voir des conflits, mais qui sont pas de chez Wesley, mais on va voir des conflits ensuite avec un certain nombre de disciples. Donc, je dirais qu'il y a chez lui, et on le voit dans ses écrits, un irénisme, une capacité à tendre la main à l'autre et à être uni sur l'essentiel que je trouve tout à fait impressionnante. Et alors, ce que je trouve tout à fait remarquable aussi, c'est que il va puiser chez les pères, ça c'est son côté anglican sans doute aussi, mais il va puiser chez les pères de l'Église et chez des auteurs spirituels catholiques plus qu'aucun, me semble-t-il, des protestants de son temps. Bien sûr, il va prendre les pères de l'Église. Ça, les pères de l'Église, c'est relativement simple. Ou la mystique rhénane, je dirais que c'est relativement simple parce que c'est avant. Ça fait partie de l'héritage commun. L'imitation de Jésus-Christ, il l'a médité toute sa vie et il va la recommander à ce petit livre, il va le recommander aux gens qu'il va former. C'est intéressant parce qu'il a organisé, un peu comme on vous donne une bibliographie, des petites bibliothèques pour la formation des responsables. Et dans cette bibliothèque, vous avez les auteurs catholiques. Vous avez donc l'imitation de Jésus-Christ, vous avez Laurent de la Résurrection, dont on vous a parlé à l'occasion, ce petit carme parisien, donc sur la pratique de la présence de Dieu, vous avez François de Sales. François de Sales, c'est plus original, parce que c'est un contemporain. Il appartient à la boutique en face. C'est un contemporain. Et alors, il a des formules amusantes. Il dit par exemple, sur la justification, François de Sales, quand même, c'est pas terrible, Et Luther, alors ça, c'est admirable. Mais sur la sanctification, Luther, c'est pas ça. Et alors, François de Sales, lisez-le, c'est génial. Donc, vous voyez, il a cette capacité de s'ouvrir à la dimension positive dans des spiritualités qui ne sont pas simplement des spiritualités anciennes et donc dont on pourrait dire qu'elles sont l'héritage commun de l'Église, le tronc commun, mais même voilà, penser au bon côté du catholicisme contemporain, aller au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, je veux dire, c'est pas si courant que ça. L'œcuménisme, c'est pas... Bon. Fénelon aussi, qui va recommander avec l'amour parfait, le pur amour, etc. Et ce qui est frappant, et contre quoi il faut qu'on lutte, je crois, c'est que cette liberté magnifique, elle disparaît à la deuxième génération. Ça, c'est toujours le cas. La première génération, ceux qui sont les disciples de Wesley, ils vont lire tous ces gens-là. Et puis la deuxième génération, elle va lire Wesley. Et ça marche toujours comme ça. Chez Calvin, c'est pareil. Vous lisez Calvin, c'est bourré de citations des pères de l'Église, des théologiens médiévaux, des théologiens de l'époque, etc. Puis, la deuxième génération fait des réformateurs et pères de l'Église. Et on oublie, au fond, cette continuité. Et il me semble que, si je le dis, c'est que je crois qu'aujourd'hui, nous avons la chance, cette liberté, elle est infiniment plus facile, me semble-t-il, à reconquérir aujourd'hui qu'hier. Parce qu'on est dans une période où cet œcuménisme spirituel est plus facile que même il y a 50 ans. Où aujourd'hui, au fond, on peut être enraciné dans une spiritualité, dans une tradition, tout en recevant, c'est ce qu'on a essayé de faire pendant toute cette année, tout en recevant des autres traditions, soit qui nous ont précédés, soit qui sont à côté de nous, tout ce qu'elles peuvent avoir de juste, de vrai, de bon. Et donc on comprend facilement que le mouvement pentecôtiste, le mouvement charismatique, dont on va parler tout à l'heure, au fond, vont trouver en Wesley un grand ancêtre. Et je crois qu'il est un personnage tout à fait passionnant, tout à fait fondamental, et au fond, toute la mouvance évangélique a reçu de Wesley énormément de choses. Et une bonne partie de notre spiritualité, que ça soit, je dirais, des éléments dans les églises de type réformé, hein, que ce soit les spiritualités de type évangélique, que ce soit les spiritualités de type charismatique, au fond, nous sommes en très grande partie, très largement, les héritiers de Wesley. Alors, quelques ouvrages rapides. Sur Spener, très peu de choses en français. Si vous voulez lire quelque chose, eh bien, prenez ça. Les Pia Desideria, donc, qui ont été traduits et qui ont été... Alors, il y a une note, les notes et une postface de Mark Linhart, qui est un des grands spécialistes de Luther, hein, aussi. Donc voilà, excellent petit livre. Mais il n'y a pas grand-chose d'autre sur le piétisme, il me semble, en français. Alors en allemand ou en anglais, vous auriez énormément de choses. De John Wesley, vous avez quelques livres, mais pas énormément en français. Vous avez des prédications principalement. Vous avez La Voie du Salut, qui est un choix de prédication de John Wesley. Et vous avez Le Sermon sur la Montagne, le commentaire du Sermon sur la Montagne, qui est aussi un texte très intéressant. Au fond, l'héritage fondamental au point de vue littéraire de Wesley, pour les églises méthodistes, ce sont les sermons de Wesley. C'est là qu'il a dit, au fond, l'essentiel de sa pensée. Là-dessus, vous avez une série de livres tout à fait intéressants sur Wesley. Vous avez, à mon avis, le meilleur de Louis Rataboul, qui est un catholique, lui-même, un historien catholique. John Wesley, un anglican sans frontières, 1991. Ça, je dirais, c'est un livre historique au sens moderne du terme, c'est-à-dire sérieux. C'est pas de l'apologétique wesleyenne, c'est un livre historique sur Wesley par un catholique qui a une grande sympathie pour l'homme. Voilà, c'est un livre au sens historique moderne. Vous avez des livres anciens de Mathieu Lelièvre. Alors, je vous ai mis des dates, la 92-90, mais ça, c'est les rééditions modernes. Mais le livre doit dater des années 20, je pense, je ne sais plus très bien. John Wesley, sa vie et son œuvre, et puis la théologie de Wesley. Alors, là, on n'est pas dans de l'histoire moderne, on est dans de l'apologétique un peu quand même wesleyenne. Si je les ai cités, c'est parce qu'ils sont quand même bourrés de renseignements passionnants, et en particulier le livre sur la théologie de Wesley. S'il y avait mieux en français, ben je vous le dirais, mais je ne connais pas mieux en français. Donc il y a beaucoup de choses passionnantes, et je vous dis là, on est dans le disciple qui salue le maître, hein, mais voilà. C'est un peu la géographie quand même, vous savez comme on faisait autrefois les vides saints. Et puis vous avez un tout petit bouquin, alors très sympathique, de Fadi Lovski. Lovski, c'est un réformé charismatique. Pour ceux qui connaissent, il fait partie de la communauté de Charme, hein, de l'Union de prière de Charme, qui est aussi, je dirais, un historien à certains égards, et qui a écrit ce petit bouquin, Wesley, apôtre des foules, pasteur des pauvres, qui est un livre très intéressant parce que, il me semble, c'est un livre justement qui regarde Wesley dans une perspective charismatique, intelligente tout à fait, très facile à lire, c'est un petit livre, hein. Mais qui est écrit par un charismatique et on voit bien cette dimension. Vous avez beaucoup d'autres livres aussi sur Wesley, et en particulier un livre que je n'ai pas noté là, qui est un livre alors d'histoire, mais très intéressant, qui a été écrit, mais son nom m'échappe maintenant, par un historien français qui a écrit aussi un très beau livre sur Calvin, et il a écrit un livre sur Luther, Calvin, Wesley, ensemble. Vous trouvez ça chez Fayard, je crois, enfin, dans un grand éditeur, pour montrer justement cette importance de Wesley pour l'ensemble du protestantisme. Alors, on a encore peut-être le temps quand même de quelques remarques, questions.